Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tap 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 qui est là, présentée par Maïlys Gignier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale Printemps du Livre, festival qui se tiendra dans les bibliothèques municipales de Grenoble du 29 mars au 5 avril. Pour m'accompagner dans cette émission, j'accueille Clarlie Honegger et Séverine Carpentier. Clarlie, tu es coordinatrice d'antenne de la Radio Campus Grenoble et Séverine, tu es bibliothécaire à Grenoble. Est-ce bien ça ?
Tout à fait.
Pour cette émission spéciale, nous recevons l'ambassadeur du Printemps du Livre 2023, Sébastien Joannès. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons commencer notre petit entretien autour de votre œuvre appartenant à différents répertoires, jeunesse, théâtral, poétique, les trois à la fois. Mais qui de mieux que vous-même pour vous présenter ? Nous avons choisi de lire à nos auditeurs et auditrices une ébauche de votre petit texte de présentation. J'écris mieux, depuis que j'ai arrêté d'y voir une manière de changer le monde. J'ai cessé d'espérer pour le monde entier. Plus ça se globalise, plus ça devient petit dans mon imagination le monde. C'est à l'état d'enfant, à l'état minuscule mesure, au début d'un balbutiement du le monde. Ça nous renvoie à la préhistoire, à l'ignorance de nos anciens, et ça nous propose de réapprendre, peu à peu, les derniers gestes. J'en suis là, maintenant, dans l'écriture et dans la vie. Je cherche à devenir.
Ta, ta, ta.
Tout de suite, les questions, les réponses.
Nous allons maintenant vous laisser la parole. Et pour cela, j'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire pour la première fois ?
La nécessité. Je voyais pas d'autre. Je cherchais quelque chose pour aller mieux. J'avais 12 ans et je commençais à avoir des questions, des sensations, des émotions, des doutes, des peurs, des colères, des envies, des désirs. Et j'avais des copains autour de moi qui se lançaient dans plein de d'expérimentation dans le sport, dans la drogue, dans les jeux vidéo, etc. Et moi, j'ai découvert l'écriture comme un moyen de m'évader, de comprendre, de chercher, de trouver, de vivre, de survivre.
Et donc, du coup, si vous vous adressez à des jeunes de 12 ans, est-ce que vous leur vraiment incitez à passer à l'écriture comme solution justement pour s'évader, ou c'est vraiment à qui a envie de faire ce qu'il a envie ?
Je mène beaucoup d'ateliers d'écriture, donc dans ces ateliers-là, j'essaye de leur faire toucher la liberté d'écrire et le bien que ça peut procurer. Après, on a chacun nos manières de s'en sortir et d'occuper le temps qu'on passe sur cette planète. Donc après, on n'est pas forcé d'écrire. On peut collectionner des papillons, faire du badminton ou je ne sais pas quoi. Mais l'écriture, ça fait partie de ces possibles.
Et est-ce que quelque part, c'est parce que vous avez commencé, vous, à écrire étant adolescent ou préadolescent à 12 ans, que vous vous adressez aussi souvent à la jeunesse ?
Alors ça, c'est une vraie question à laquelle j'ai toujours pas fini de répondre. Je pense que j'écris pour la jeunesse, d'abord pour moi, avant d'écrire pour la jeunesse, et que c'est une manière, je crois, de rejoindre ma jeunesse, c'est-à-dire de me souvenir, parce qu'il y a des pans de ma jeunesse que j'ai oubliés, alors, plus ou moins volontairement. Et puis aussi tenter de vieillir mieux et de garder en moi cette part d'enfance, d'adolescence, cette espèce d'émerveillement, de, de naïveté aussi, d'espoir, de ce frémissement-là, ce bouillonnement qu'on peut avoir dans l'adolescence. J'essaye de le sauvegarder et de continuer à vivre avec.
Elle est là, la source d'inspiration.
Ah ouais, ah bah oui. Enfin, c'est pour moi, encore une fois, d'abord une nécessité. Parce que si j'écris pas pendant longtemps, je deviens dingue. Et j'emmerde toute ma famille et tous mes amis, etc. Et ensuite, oui, d'essayer de continuer à m'émerveiller, à comprendre, à chercher, quoi. C'est ce que dit ce texte, complètement, hein.
Et du coup, j'ai une petite question sur les origines d'écriture. Quel a été le premier texte? Est-ce que vous avez le souvenir de ce que vous avez écrit pour la première fois?
Alors, le premier texte dont je me souviens, mais est-ce que c'était le premier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, il avait été publié dans le bulletin paroissial de la commune où j'habitais. Le curé, il avait décidé de le mettre. Et c'était un texte qui s'appelait « La colombe ». Où je disais « message de paix, message de bonheur ». Etc. Enfin, c'était un truc hyper... c'était très bienveillant.
Alors, très chouette. Moi, je trouve ça intéressant toujours de revenir aux premiers souvenirs avant de se lancer dans les œuvres vraiment construites, etc. Beaucoup plus tard, peut-être. Du coup, nous allons commencer avec une première musique, un premier temps musical, et ensuite nous attaquerons notre émission sur l'adresse à l'adolescence. Donc voilà.
Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi.
Eh bien, reprenons notre petit entretien. C'était « Sous le soleil » de Vanille. Sur la 90.8. Alors, Sébastien, vous avez écrit une pièce appartenant au répertoire théâtral jeunesse. Cette pièce s'appelle Stroboscopie. Elle a été publiée en 2015 aux éditions théâtrales dans la collection Jeunesse. Cette pièce a été finaliste du Grand Prix de littérature dramatique. Vous l'avez écrite pour la scène. C'est une commande de la metteuse en scène Émilie Leroux pour une création à l'Espace 600 en 2013. Jusque-là, est-ce qu'on est bon?
Tout est juste.
Parfait. Avec Marie Bernanos, qui est mon acolyte habituel dans cette émission, nous aimerions vous interroger sur votre adresse et tout particulièrement, celle destinée à la jeunesse. Comment choisissez-vous votre écriture, la langue et les formes que vont prendre vos textes ?
Alors, en fait, c'est assez différent quand le texte est une commande, ce qui était le cas de Stroboscopie, et d'autres textes que j'ai pu écrire seul. Dans le cas de Stroboscopie, il était question d'abord d'une thématique. Donc la compagnie L'Éveilleur et Émilie Leroux voulait travailler autour du genre. Moi, j'ai tendance à penser que je ne comprends rien, jamais. Donc j'ai proposé à Émilie et à la compagnie de rencontrer des gens dans le quartier de la Villeneuve, autour de l'espace 600 et à l'espace 600. Et donc là, j'ai interrogé un certain nombre de gens, au collège notamment, mais aussi dans le quartier, des adultes. On se souvient qu'il y a un philosophe qui nous avait rejoints aussi. Enfin, et de poser un tas de questions aux gens et de noter leurs réponses quand elles me frappaient, quand elles m'amusaient, quand elles me choquaient. Et à partir de là, j'ai écrit une pièce qui met en scène deux personnages, un garçon et une fille qui sont sous un réverbère qui dysfonctionne, qui s'allume et qui s'éteint un peu quand il veut, et d'où le titre Stroboscopie. De mettre dans la bouche, dans le corps, dans l'esprit de ces deux personnages qui sont plutôt jeunes, à la fois les réponses que j'ai eues des gens du quartier, du collège et tout ça, mais aussi ces réponses, qu'elles soient poétisées, qu'elles soient transformées par mon écriture, et d'articuler tout ça dans une mise en scène qui puisse aussi être suffisamment intéressante pour à la fois l'équipe de création, mais aussi pour que le public jeune s'y retrouve, quoi, et s'y ennuie pas, etc.
Ok, merci déjà pour cette première réponse. Marie Bernanos vous interroge aussi sur ce que représenta cette pièce pour vous, étant donné qu'elle a été vraiment faite dans... Du coup, pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices que c'est une commande, c'est vraiment un metteur en scène, une salle de spectacle, en tout cas quelqu'un du milieu de la culture qui vient demander à un auteur d'écrire une pièce autour souvent d'une thématique un peu large, ou plus ou moins large d'ailleurs, ça dépend de ceux qui passent la commande. Et donc du coup, qu'est-ce que cette pièce représente à vos yeux, même si maintenant elle commence à avoir un certain âge aussi, quelques années, et car c'est une pièce forte, étonnante dans la manière dont vous l'avez écrite, construite, comme vous l'avez dit, entre ombre et lumière, étonnante aussi par son audace. Donc est-ce que vous pouvez nous dire deux mots aussi sur ce qu'elle représente maintenant pour vous aujourd'hui?
C'est un peu étrange parce que cette thématique du genre en 2013, c'est pas du tout la thématique du genre en 2023. Il s'est passé 10 ans, 10 ans c'est pas grand chose, mais quand même, et en 10 ans j'ai l'impression qu'on a fait un chemin énorme sur cette question-là, bon, qui est pas fini, hein, qui est toujours en mouvement, mais quand même, en relisant la pièce, il y a des choses qui m'apparaissent étranges. Que je n'écrirais pas du tout de la même manière. Je pense que les gens à qui je poserais les mêmes questions ne me donneraient pas les mêmes réponses. Et donc je trouve que c'est une pièce qui est inscrite dans cette période-là, 2013, et qu'elle, je ne dirais pas qu'elle est à côté de la plaque aujourd'hui, hein, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas abordées dedans et qui mériteraient d'avoir une place aujourd'hui.
Oui, on ressent effectivement, moi qui l'ai découverte très récemment, on ressent quand même un petit décalage temporel sur certaines prononciations, sur certaines façons d'aborder le sujet. Et du coup, j'aimerais vous interroger sur du coup, la mise en scène un peu qui a été faite de ce texte. Est-ce qu'il y a d'autres mises en scène plus récentes qui ont été faites de ce texte ou...
Oui, il y a une mise en scène qui tourne actuellement d'ailleurs à Lille. Okay. Dans un théâtre qui s'appelle, par une équipe qui s'appelle La Manivelle. Qui est très bien d'ailleurs, avec des néons, etc. Ils ont fait une super belle mise en scène, très graphique, très, très visuelle, et un DJ, etc. C'est une belle forme.
Et du coup, sur la mise en scène qui avait été faite par Émilie Leroux en résidence, est-ce que dans la création, vous étiez vraiment présent au sein de la résidence ou pendant la création du spectacle, ou une fois que le texte a été délivré, ça a été la liberté d'Émilie Leroux de monter ce texte?
Ah non, les metteurs en scène sont libres. Moi, je n'interviens pas dans les mises en scène. Justement, ce qui m'intéresse, enfin, disons que c'est un métier que j'ai fait pendant plusieurs années. Metteur en scène, comédien, et j'ai décidé d'arrêter ce métier-là pour écrire. Donc je ne me verrai pas aujourd'hui expliquer au metteur en scène quoi faire, sinon il faudrait que je monte une compagnie et que je mette en scène mes textes. Non, et au contraire, ce qui m'intéresse, c'est d'aboutir une forme écrite, et puis ensuite les équipes s'en emparent et font ce qu'ils ont envie, et c'est très bien comme ça.
Et je reviens à votre démarche d'écriture, est-ce que le fait d'aller... récolter de la parole, d'aller à la rencontre de personnes, est-ce que c'est quelque chose que, de manière générale, vous faites quand vous commencez à écrire, ou là, c'est spécifiquement, justement, quand c'est des commandes et que c'est un thème qui vous est quelque part imposé, c'est à ce moment-là, du coup, qu'il y a cette démarche d'aller à la rencontre d'inconnus, quelque part?
Mais ça, c'est une manière d'écrire que j'ai découvert avant Stroboscopie, pour une autre compagnie de marionnettes, et qui voulait travailler autour de l'Algérie. Donc l'Algérie, pareil, j'y comprends rien. Je sais pas. Et donc, avec la metteur en scène, Émilie Flacher, on a interrogé déjà des gens sur le passé franco-algérien, donc des anciens combattants, essentiellement, de la guerre d'Algérie. J'ai écrit une forme là-dessus. Et là, j'ai découvert que les réponses qu'on me donnait, mon écriture, pouvaient éventuellement fusionner pour faire une forme théâtrale. Et depuis, en fait, je fais pas ça tout le temps, mais assez régulièrement, je vais avec d'autres artistes, jamais seul, à la rencontre de différents publics sur différentes thématiques. Là, en ce moment, je viens de dire un truc, puis je me contredis déjà, je suis en ce moment tout seul dans un hôpital à Aubenas, en Ardèche, et je suis en résidence pendant un an en soins palliatifs à l'hôpital d'Aubenas, où j'interroge des gens en fin de vie, des soignants et des aidants. Et j'essaye d'y comprendre quelque chose, et puis d'écrire à partir de ce que les gens me racontent.
Et puis, je me pose la question, est-ce que justement, quand il est question d'écrire pour la jeunesse, est-ce que c'est pas encore plus important de garder un lien constant avec la jeunesse en cours? Parce que quelque part, elle évolue tellement vite que finalement, comme on dit, la jeunesse des années 2013 n'est plus la jeunesse de celle d'aujourd'hui.
Alors ça, je suis toujours en contact avec des jeunes, parce que d'abord, j'ai des enfants. Qui ont 15 et 18 ans. Donc on va dire que l'adolescence, je baigne dedans complètement, entre la salle de bain, la cuisine et la chambre. Et puis d'autre part, étant donné que j'ai quand même une bonne partie de mon œuvre qui est publiée pour la jeunesse, dans des collections jeunesse, du coup je rencontre beaucoup de mes lecteurs dans des collèges, dans des écoles, dans des lycées, enfin... Donc je suis, une bonne partie de l'année en contact. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut quand même le garder, ce lien. Parce que oui, ne serait-ce que dans le lexique, dans le vocabulaire, dans la manière de dire, il y a plein de choses qu'on ne dit plus aujourd'hui. Des fois, et puis il n'y a rien de pire qu'un adulte qui veut être un peu branché et qui dirait « chébran ». Ça, non, c'est naze. Donc j'essaye de me mettre au
diapason.
Au diapason.
Mais d'ailleurs, Rosa, la personnage principale de On a supermarché sur la Lune, elle a...
On a supermarché sur la Lune, du coup, un des textes qui est présenté lors du printemps du livre et qui,
qui est
très
roman,
récent.
Hein. Ouais, qui est sorti en 2022 à La Joie de Lire. Rosa, en fait, elle a pas la même vision que les deux adolescentes stroboscopie. Elle a par rapport à l'amour ou par rapport à la question du genre, elle a cette espèce de facilité, en fait, que les adolescents de maintenant ont plus dans la façon d'aborder les problématiques. Presque, c'est évident, en fait. Il n'y a pas... n'y a pas de questionnement, il y a juste une évidence, voilà. Et c'est voilà, c'est cette évolution là, en fait, c'est ce que tu disais sur le fait de passer en fait du temps avec les adolescents. Mais tu as aussi écrit des romans pour les plus petits. Est-ce que tu as évolué avec tes personnages ?
Ah bah oui. En fait, écrire, c'est aussi décrypter un peu le monde, décrypter soi-même, aller chercher en soi et chez les autres et dans le monde en général, dans les paysages, des clés. Et c'est sûr que cette jeunesse d'aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus intelligente au sens vraiment de comprendre, d'avoir des informations et de pouvoir les relier. Et elle est beaucoup moins naïve que ce qu'on était nous au même âge et ce que même on était en 2010. Il y a effectivement cette alors,
est-ce qu'elle est plus intelligente ou est-ce qu'elle est plus désabusée? Bah, désenchanté.
Ça va avec, en fait. C'est une espèce de yo-yo entre la lucidité et le désespoir, quoi. Il y a quelque chose qui... et en même temps, avec cette envie de vivre et d'avancer et de se réaliser. Donc...
les contradictions sont plus fortes.
Ah oui, c'est sûr, mais parce que le monde aussi est de plus en plus contradictoire. C'est-à-dire qu'on est capable d'affirmer quelque chose et de faire l'inverse, nous, adultes. Donc comment se construire quand en face de soi, on a des adultes irresponsables, incompétents, ignorants et barbares, quoi.
Et puis, il y a une forme d'intelligence émotionnelle, je pense, qui est plus importante que celle que nous, on a pu vivre adolescents. Et par rapport aux parents, j'ai beaucoup aimé la phrase « j'ai laissé mes parents vieillir dans la cuisine », parce qu'en fait, effectivement, elle n'a pas le temps, quoi. Rosa, elle n'a pas le temps. Elle les laisse vieillir et elle va faire, en fait. Ils sont dans l'action, ils sont dans l'envie, l'envie de vivre et de croquer. Et c'est vraiment la différence, je pense, avec les adolescents d'il y a quelques années, en fait.
Alors, nous allons quitter plus ou moins l'adolescence et très vite y revenir. Nous allons parler d'amour après une petite pause musicale. Ce sera le coup de soleil, une reprise de Bon Entendeur interprétée par Emma Peter.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Moi j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Tu n'es pas là. Et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voudrais me tirer mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis, mais tu n'es pas là. Mais tu n'es pas là.
Après le coup de soleil, notre chanson commune inavouable, on ne peut que parler d'amour. Ça tombe bien, c'est justement l'un des thèmes qui traverse votre œuvre, Sébastien, et particulièrement Désarmée Cantique. Effectivement, en 2009, vous vous inspirez d'une des plus grandes célébrations de l'amour, le Cantique des Cantiques, pour écrire la pièce Désarmée Cantique. C'est une déclaration d'amour de lui à elle, d'elle à lui, où s'expriment les sentiments amoureux de deux enfants, devenant adolescents et au moment où ils se livrent, tout jeunes adultes. Comme eux, leur amour grandit sur une terre rouge de sang et grise de cendres sur laquelle s'affrontent leurs familles. C'est dans l'ombre de la mort qu'ils tombent amoureux, dans la douleur de la perte d'un aïeul, puis de sa sœur à elle, puis de son frère à lui. Donc même si contrairement à la pièce de Shakespeare, ça finit bien et ça ne se résout pas dans la mort et l'absolu de l'amour, mais dans la vie, est-ce qu'on doit voir dans ces personnages un Roméo et une Juliette ?
Oui. Oui, un Roméo, une Juliette, sans problème. Et d'autres qui sont moins connus, en Palestine, en ex-Yougoslavie, ou dans des endroits comme ça, où effectivement, il y a eu des... ou en RDA, RFA, en Allemagne de l'époque, des destins, des amours empêchés, brisés, meurtris. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette pièce ? Est-ce que c'était justement lié à, une actualité politique spécifique ?
Non, cette actualité-là, je pense qu'on l'a à peu près tous les mois, depuis des années. Moi, j'ai fait du catéchisme quand j'étais gamin. Et le seul truc que j'ai retenu en dehors d'une sainte horreur de ce monde-là, c'est... Le Cantique des Cantiques, c'est ce texte-là. Et puis Alain Bashung en a fait une version, une nouvelle, à partir d'une nouvelle traduction d'Olivier Cadio. Et ça m'a relancé dans ce truc-là. Et tout prétentieusement, je me suis dit, moi aussi, je vais écrire un cantique. Et là, je me suis lancé. Et donc, j'ai commencé à écrire sa parole à elle. Et c'était très simple. C'était très... évident. Et donc j'ai écrit, puis au bout d'un moment, je me suis dit, non mais quand même, il va falloir que l'homme parle. Et donc j'ai commencé à écrire la parole de l'homme, et là je me suis rendu compte que c'était pas simple du tout. C'est-à-dire qu'au bout d'une
parce
page...
Parce que c'était plus proche de vous ?
Peut-être, mais aussi parce que moi, comme beaucoup d'hommes, on n'est pas du tout élevé, enfin on n'était pas élevé, j'espère que ça a changé, dans la possibilité d'exprimer quelque chose de doux, quelque chose de sensible, et donc j'écrivais, et puis l'homme au bout d'une page ou deux, il disait moi aussi je t'aime, super, on fait l'amour, et puis voilà quoi. Et à chaque fois je déchirais, je jetais à la poubelle et je trouvais pas, jusqu'au jour où j'ai rencontré ma femme, celle qui est ma femme depuis 20 ans. Et là, c'est devenu simple, parce que ça lui était dédié, parce que j'éprouvais, peut-être pour la première fois de ma vie, j'avais 30 piges, l'amour.
Donc en fait, l'écriture de ce livre a une longue histoire.
Ah oui.
En tout cas, le brouillon a été là pendant, vous a accompagné des années avant qu'il aboutisse.
Mais tous les... tous les textes qu'on écrit viennent de bien plus loin
que la première fois qu'on s'assied devant l'ordinateur et qu'on...
Mais c'est sûr, il y a un peintre qui quand on lui demande combien de temps il a fait pour faire ce tableau, combien de temps il a mis pour faire ce tableau, il donne son âge. Et c'est vrai que on ne sait pas en fait combien de temps il faut désarmer. J'ai mis, on va dire, 2 ou 3 ans à l'écrire. Et c'est un tout petit bouquin, hein, ça paraît rien. Mais il vient de bien avant et il a fallu gravir, comme elle dit dans le texte, il a fallu en gravir des montagnes pour arriver jusqu'à toi. Ouais.
Et justement, vous disiez que c'était difficile d'écrire sur l'amour en tant qu'homme, mais est-ce que c'est pas difficile d'écrire sur l'amour de manière générale? Parce qu'il y a tellement une méfiance par rapport aux discours amoureux qui sont souvent soupçonnés de sentimentalisme, de mièvrerie, d'être naïf. Et quelque part, est-ce que le fait d'écrire, de parler d'amour aux adolescents, c'est aussi une manière plus facile d'écrire sur l'amour, parce que à cet âge-là, justement, c'est un âge où les sentiments, les émotions sont à vif et où on prend peut-être plus au sérieux ce sentiment qu'à l'âge adulte qui est empêtré dans dans cette représentation-là d'amour fleur bleue, quoi.
Alors, il y a deux choses. Je pense que j'avais très honte de ce texte. C'est-à-dire que ce texte me déshabillait complètement. J'avais vraiment la sensation d'être tout nu dans un monde hostile et d'être là avec mon machin d'amour, oui, effectivement, un peu fleur bleue, un peu. Mais j'avais envie d'aller au bout de ça, quoi, d'affirmer cette chose-là comme un contrepoint à ce monde-là, justement, et que pour moi, mais depuis toujours, c'est l'unique solution, en fait. Pour que ce monde s'en sorte, il faut aimer, en fait. Il faut être aimé et aimer. Ça paraît tellement cliché, quoi. Tellement... Et puis après, en vieillissant, je me rends compte aussi que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 80 ans et qui rencontrent quelqu'un dans un EHPAD et qui deviennent des enfants éperdus, complètement transis d'amour, complètement mièvres, complètement romantiques. Et que je crois que c'est effectivement quelque chose qui ne nous lâche jamais, quoi.
Mais du coup, est-ce que l'adresser aux adolescents, c'est plus facile que l'adresser aux adultes? Parce qu'en fait, cet ouvrage, il est quand même... en tout cas, il a reçu le prix... le prix des collégiens. Mmh. Et donc, il a été fléché, en tout cas reconnu comme un texte s'adressant à l'adolescence. Est-ce que c'était une volonté de votre part?
Pas du tout. Non, c'est une collection adulte. J'ai même été très surpris quand il a eu le prix Collidrame, parce que pour moi, c'est un texte adulte. Mais les collégiens y ont trouvé quelque chose qui leur parlait très, très fort. J'ai rencontré des classes qui, vraiment, l'ont élu d'une manière absolument totale, quoi. Et j'étais le premier surpris. Non, je crois que... Je trouve que c'est même plus difficile... De mettre en scène des personnages ou en mots des personnages jeunes que des personnages adultes, parce que un mot dans une phrase qui est mal placée pour un jeune, c'est fini, en fait il ferme le bouquin et il arrête. Un enfant à qui on raconte une histoire, s'il y a quelque chose qui lui déplaît, même un détail, il va arrêter d'écouter.
Une intransigeance.
Mais oui, alors qu'un adulte, bon, il va y trouver autre chose, ou il va être poli, ou... Mais non, les gamins, pas du tout, quoi. Non, je trouve que c'est plus difficile pour moi.
Et c'est un thème, l'amour, qui quand même transcende toute votre œuvre. En tout cas, dans On a supermarché sur la Lune, on en parle beaucoup. Dans Stroboscopie, il en est quand même question aussi. Et est-ce que c'est parce que c'est un thème de l'adolescence par excellence, ou que c'est une question qui vous taraude, vous, plus personnellement, quoi?
C'est une question de tous les jours, en fait. De tous les jours. Enfin, moi, je rencontre des gens tout le temps. J'adore ça, rencontrer des gens. Mais... ce lien humain, en fait, en dehors même de l'amour, enfin, au-delà même de l'amour, ce lien humain, pour moi, c'est bien ce qu'on a compris pendant ces confinements, par exemple, c'est que sans lien, on n'est rien, on n'existe pas. Et que s'il y a bien une raison de traverser cette existence, c'est les autres. Moi, c'est toujours les autres qui m'ont sauvé, en fait. Toujours. À un moment où je doute, où je ne sais plus, où je me sens nul, où j'ai plus envie, où il y a toujours quelqu'un qui vient me chercher, quoi. Que ce soit dans mon boulot ou dans ma vie, ça s'est toujours passé de la même manière. Et le jour où il n'y aura plus personne, ben, je pense qu'il faudra terminer, quoi.
Eh ben, je vous propose d'écouter Le Cantique des Cantiques d'Alain Bachung et Chloé Mons.
Des baisers, oh, des baisers de sa bouche. C'est très bon tes amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. On a bien raison de t'aimer. Fille de Jérusalem, je suis noire et magnifique. Comme les tentes de Kedar, comme les teintures de Salomon. Mais ne me voyez pas si noir. Celui qui m'a bruni, c'est le soleil. Raconte où est le pré, toi que j'aime, moi. Là où tu emmènes les bêtes, comment tu les fais reposer à midi. Je ne serai plus perdue au milieu des troupeaux de tes amis.
Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, allez, sors à la poursuite du petit bétail. Emmène auprès des petites chèvres, tout près des maisons des bergers. Mon ami, je te compare, une jument entre les chars du pharaon. Tes joues sont jolies entre les colliers et ton cou entre les perles. Nous te ferons des colliers d'or constellés d'argent.
Le roi est au milieu de sa cour, elle l'a. Mon parfum de nard donne son odeur. Un petit bouquet de myrrhe, c'est mon amour à moi. Il passe la nuit entre mes seins, une grappe de henné. C'est mon amour à moi dans les vignes, Aïn Gedi.
Allez, lève-toi, mon ami Babel, en avant. Regarde, l'hiver est fini, la pluie a cessé, elle s'en va. Première figue du figuier, les vignes en fleurs donnent une odeur. Lève-toi, mon ami, ma belle, en avant. Ma colombe du creux des roches, dans la cachette des falaises. Fais-moi voir ton visage, fais-moi écouter ta voix si tendre, magnifique, ton visage.
Mon amour est à moi et moi à lui, celui qui emmène auprès entre l'Ulysse. Tourne-toi, mon amour. Avant le souffle du matin, avant la fuite des ombres, allez, deviens un cerf, un petit chevreuil, au-dessus des montagnes séparation.
Te voilà, mon ami, si belle, te voilà, si belle, derrière ton voile, tes yeux, oh, des colombes, ici tes cheveux, des chèvres noires des vals de la montagne de Galate, ici tes dents, un troupeau tout blanc, remonte du bain, chacune à sa jumelle. Aucune ne manque, tes lèvres ressemblent à un fil écarlate. Quand tu parles, c'est magnifique. Ta joue derrière ton voile, pareille à une moitié de grenade. Tes deux seins seraient deux fans, jumeaux d'une gazelle au pré entre les lys. Avant le souffle du matin, avant la fuite des ombres, moi j'irai sur la montagne myrrhe et sur la colline en sang. Entièrement belle, mon ami, toi, sans défaut.
Allez, réveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, envoie le vent dans mon jardin, torrent de baume. Mon amour viendra dans son jardin, manger les fruits merveilles.
Ouvre-moi ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Vite, ma tête est couverte de rosée, mes boucles gouttent de nuit.
Mon amour est éclatant et vermeil. Remarquable entre 10 000, sa tête est en or fin. Voilà ses boucles, palmes noires, corbeaux, ses yeux, presque des colombes près des torrents d'eau.
Alors on vous invite à la découvrir en entier, elle dure une demi-heure, c'est une chanson magnifique. Et du coup, le Cantique des Cantiques a été effectivement adapté en chanson, c'est quand même un texte qui se prête à la poésie et à la musique particulièrement. Et là, moi, c'est vrai que quand j'ai connu votre texte, on me l'avait plutôt présenté comme de la poésie. Et c'est en l'ouvrant que j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, c'était un texte de théâtre. Et par la forme, quoi, où on a du coup les deux personnages qui sont présentés en début de livre. Et du coup, je me demandais pourquoi ce choix d'en avoir fait du théâtre. Est-ce que c'est parce que vous vouliez vous assurer qu'il soit oralisé, mis sur scène, incarné ?
Alors ce choix, pour moi, il n'est pas évident. C'est-à-dire que tout ce que j'écris, c'est de la poésie. Après, ça fait des romans, ça fait du théâtre, ça fait des albums jeunesse, ça fait des tas de trucs. Mais en fait, pour moi, il n'y a rien sans poésie. Après, ce texte-là, il a intéressé les éditions Espace 34, qui est une édition théâtrale, mais qui travaille quand même beaucoup autour de textes, quand même avec une forme poétique, et qui travaille beaucoup sur une littérature dramatique, plus que même des textes de théâtre à jouer, on va dire. C'est des textes qui sont d'abord à lire. Et donc c'est comme ça qu'il a atterri dans une collection de théâtre. Après, moi, il y a aussi dans ce que j'écris quelque chose de très oral. C'est-à-dire que même mes romans ont fait l'objet de mise en scène, que j'adore les lire à voix haute et que tout est facile à mettre en voix parce que j'ai ce souci, cette obsession de mettre des mots dans une bouche et que cette bouche-là, elle puisse crier, aimer, pleurer, raconter, quoi. Donc c'est aussi du théâtre, tout peut être, on aurait presque pu dire ben, mon monologue On a supermarché sur la lune, c'est un texte de théâtre, sans problème.
Justement, je vais rebondir sur ça. On a supermarché sur la lune, donc le personnage principal, Rosa, elle chante, elle écrit des poèmes, elle écrit son journal. C'est une écriture, en fait, comme tu le disais, où tout pourrait être poésie. Tu as parlé tout à l'heure de Cadio. C'est une influence, cette poésie-là, c'est une poésie d'incantation, un peu. Cadio, il se met à déclamer à n'importe quel moment. Et elle est un peu comme ça, Rosa. Elle vit sa vie en poésie, en chanson, constamment. Elle invente des choses, des mots, et du coup, voilà, est-ce que l'influence de poètes comme ça, très beaucoup dans l'oralité, fait résonner quelque chose chez toi, en fait ?
Moi, je travaille beaucoup avec des musiciens. J'ai un rapport à la musique qui est très instinctif, parce que je ne sais pas jouer d'un instrument, mais cette idée que la langue est une musique, un rythme, une mélodie, pour moi c'est absolument évident. Donc comme la musique, la littérature, elle se chante, elle se parle, elle se vibre, elle se frappe. Donc c'est vrai que ces poètes-là qui ont cette notion-là, cette vibration me touche plus que d'autres qui seraient pour moi plus littéraires, entre guillemets. J'aime beaucoup les romans et tout ça, mais même dans les romans, j'ai toujours besoin qu'un auteur me parle, et me parle au sens vraiment oral du terme, quoi. J'ai besoin d'entendre une voix avant de lire des mots, quoi.
Ouais, il y a un flow, il y a un slam un peu. Elle fait son groupe et il y a dans l'écriture de On a supermarché sur la lune, on a ce flow là. On peut pas s'arrêter en fait de tourner les pages parce que c'est comme une longue litanie. On est dans sa tête en même temps et ça c'est très rythmé et ça donne envie de se lever et chanter en fait. C'est vraiment ce qu'elle fait elle, mais ça donne envie aussi d'autres choses peut-être, je sais pas. Vous avez envie d'écouter un peu cette langue-là, non ? Cette littérature ?
Bien oui, on peut complètement écouter cette langue-là.
Allez, je vous lis un petit
bout. On l'a sur la main, je lance juste le petit jingle de théâtre. Ça s'écoute. Ta, ta, ta. Le théâtre, ça s'écoute ?
J'essaye des styles. Aujourd'hui, la mèche bleue. Demain, la casquette, basket ou sandale. C'est selon mon dernier moi. Je change à vitesse hormonale, d'une simple pression sur mon axe de gravitation. Qu'un coup de vent, une parole dans le fond d'un bus, qu'un regard me frôle, et je tourne immédiatement ma veste, mes cheveux, mon esprit. À toujours me métamorphoser, je me fatigue. J'aimerais tellement savoir qui je suis, ce que je veux. Mais un jour adulte, un jour enfant, un jour coincé dans une bulle entre deux âges, je balance. Hausse les épaules sans décider si je préfère le ketchup, la mayonnaise ou la moutarde. Je préfère rien, en fait. J'aime rien. J'aime tout. J'aime tout ce que tout le monde aime. Mais j'aime personne. Même pas moi en ce moment. Tout à l'heure, peut-être. Maintenant, je déteste mes joues, mes jambes, ma voix, mes seins, mes fesses. Rien ne me va dans le miroir. Tout se casse en morceaux qui m'éparpillent encore. J'apparais éclaté en une multitude de moi dans mon millier de miroirs. Comment savoir quel reflet me correspond? Est-ce que je vais me couper en ramassant les morceaux? J'aime pas avoir mal. Mais j'ai besoin de souffrir pour me sentir vivante. J'aime pas la vie. Je suis attiré par la mort, ne plus être, ne plus savoir, ne plus avoir à savoir, ne plus pouvoir changer, rester immobile, inerte. Quelle horreur! Je me vois morte et je cligne des yeux pour effacer l'image. J'aime pas mourir. Pourtant, j'en finis pas de mourir pour renaître autrement, avec une mèche bleue, comme tout le monde. Comme personne.
Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a un autre extrait que tu aimerais nous partager parce qu'on arrive au terme de cette émission?
Oui, il y avait un truc. Ah bah tiens, je tombe dessus, impeccable.
Un truc. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est On a supermarché sur la Lune?
C'est On a supermarché sur la Lune. Exactement. 75.
Donc vous ferez davantage de lecture durant le printemps du livre.
Ouais, j'en fais là cette semaine, ici à Grenoble, et j'en ferai aussi pas mal, notamment avec des musiciens. Il y aura une version sonore de On a supermarché sur la Lune avec un bassiste qui s'appelle Jordi Martin, et puis une autre version sonore aussi de J'aime pas ma sœur, un texte plus jeune public avec Pierre Lassaï qui est clarinettiste.
Donc les dates seront à retrouver, peuvent être retrouvées sur le site, j'imagine, des bibliothèques de Grenoble.
Exactement.
Voilà pour un deuxième extrait, qui, celui-là, est de...
Et de On a supermarché sur la Lune.
Très bien,
on continue, c'est cohérent. Au collège, je cours dans l'escalier, un sourire sur les lèvres. Mais un sourire ici s'en va vite. Dans le grand dédale du brevet... Les couloirs font des salles, qui font des profs, qui font des cours, qui font des devoirs, qui font des notes, et pas des sourires. Je file, des uns aux autres. De porte en porte, je porte mon sac de plus en plus lourd sur mes épaules de moins en moins droites. Je descends, je monte les escaliers vers des étages de cahiers. Je me perds, me retrouve au milieu de la cour, à courir encore en cours. Et le français s'anglais. Les maths physiques. La terre, géographie, en musique, des arts plastiques qui me PS aux Espagnols. À la fin, toute l'histoire part en chimie dans une grande techno. Thalès et ses parallèles provoquent une guerre froide entre les verbes irréguliers qui empêchent le cycle de reproduction des molécules élevées aux homonymes. Plus rien ne sent vrai, ni nature, ni barbecue. Tout est goût, brevet. Les moindres leçons. Les plus petites évaluations, tout compte au bénéfice ou au déficit du brevet. Même mon zozotement sur les « veux ». Même mon doigt levé est breveté. Et si je tousse, si je fais tomber ma trousse, si je baille, si je suis en retard, « Attention, bientôt le brevet, il faut tenir !» prévient Monsieur Gillot sous l'horloge. Alors j'avance. Sous le préau qui gymnase, je longe le réfectoire de la bibliothèque. Je croise un pion pas réveillé qui me demande un mot de retard. Un mot ? Bah oui, de retard. Bah, c'est ça. Mais j'ai toujours un mot de retard, toujours un siècle de retard, un bus de retard. Ok, ok, c'est bon, tu demanderas à tes parents, c'est bon. J'en peux plus de pression. Je suis en mode cocotte. Au bord d'exploser tellement ça mijote dans mon cerveau. Des DM, des DS, des EPI, des SAPI, des SVT, des AVS, des AVI. Dans un magma d'hormones et de musique, d'amis, de messages, de parents, d'orientation, de vacances, de week-ends, de fêtes de Noël, de bûches arrosées au devoir, 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 à la maison, devoir en vacances, devoir à apprendre, devoir à rendre, devoir, 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 devoir. Par-dessus la tête des devoirs. Comme si j'avais des dettes. Comme si je devais déjà payer avant de commencer. J'en peux plus. Je vais à l'infirmerie. Fermée. L'infirmière travaille dans 3 collèges différents. Elle ouvre ici le jeudi de 8h à midi et de 14h à 15h. Je vais au bureau des pions. Personne. Les pions sont partis aider le personnel de cantine à mettre les tables. Je vais au bureau d'orientation. Fermé. Il n'y a plus d'orientation. Je vais au WC. Je m'assois sur l'émail blanc froid. Je compte les chewing-gums collés sur les murs. 17. Autant de bouches qui mâchent du stress. Multiplié par le nombre de WC, ça fait combien de gens comme moi ? Des à la menthe, des chlorophylles, des fraises, des réglisses. Autant de goûts qui traînent ici. Qui attendent ici. Qui pleurent ici. Comme moi.
Bien, merci pour cette lecture. Je note quand même un goût particulier pour les mélanges avec les mots que j'ai déjà remarqué du coup dans l'anthroposcopie cet après-midi même en relisant la pièce. Ce goût comme deux mots l'un à côté de l'autre qui ne sont pas faits pour être ensemble résonnent complètement différemment. Et je trouve que ça résonne d'autant plus là avec tout ce vocabulaire de l'école qui parle en fait. Je pense que ces mots parlent d'eux-mêmes. Et résonne énormément. Merci pour cette lecture. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre où on s'arrête là et on vient vous découvrir pendant cette petite programmation du printemps du livre ?
Oui, il faut venir en vrai, en live. Ouais, ouais.
Alors, nous invitons nos chers auditeurs et auditrices à venir en live. Merci pour vos réponses, pour vos lectures, pour vos interprétations. On sent le comédien que vous aviez été. Et que vous êtes toujours un petit peu. Nous arrivons à la fin de cette émission Tap 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 qui est là, spéciale Printemps du Livre sur Radio Campus Grenoble. J'espère que cette émission vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 10h30 sur la 90.8 ou n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure en podcast. C'était Séverine, Claire Lee et Maïlys pour Théâtre à la Page.
Et 1, 2... 1, 2, 3, 4.
Tap,
ta,
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,